ça sent le lion.
Quel courage !
Vous avez vu, vous, des combats d'éléphants ? Vous en avez vu, vous ?
Moi, non, j'en ai jamais vu.
Eh bien, alors, taisez-vous !
Mais que diriez-vous ?
La vie des animaux, épisode numéro 2, les animaux sauvages.
J'en avais jamais vu. Ils sont si majestueux, si indestructibles. Devant eux, on a l'air de perverses petites créatures d'une autre planète. Aucune dignité. Fantastique. Ils font partie d'un monde qui n'existe plus.
Mieux vaut dire animaux sans doute qu'animal, mais entre les animaux, comment distinguer ? Attribuer à certains d'entre eux le qualificatif de sauvage, c'est partir de la relation que l'homme établit avec eux. Serait sauvage telle espèce parce qu'elle nous apparaît très distante ? Serait sauvage tel individu d'une espèce parce qu'il nous apparaît dangereux ? Mais pour un Indien d'Amazonie, la distinction n'a guère de sens. Il n'a pas la moindre idée des barrières que nous avons établies et il vit dans des collectifs où humains, animaux, plantes et esprits interagissent naturellement. Vaste débat qui nécessite de recourir à l'éthologie, la science des comportements animaux, à la philosophie, et débouche sur le droit. En Amérique du Nord, quelques-uns seraient déjà prêts à accorder aux animaux sauvages des privilèges juridiques attachés chez les hommes aux nations premières. Que peut modestement l'histoire dire simplement que les tigres ne sont pas des hommes et que ceux-ci ne sont pas des loups, et aussi que les loups, par exemple, n'ont pas toujours été les mêmes, ils ont eu des comportements divers selon les époques et les milieux. D'autres sciences ont étudié l'évolution, l'histoire insiste sur l'adaptation.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Toute cette semaine, Éric Baratet est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Qui enseigne l'histoire des animaux à l'université Lyon 3. Qui a publié, c'est un maître-livre sur lequel on s'appuiera aujourd'hui, Le Point de vue animal, aux éditions du Seuil. Votre idée, c'est de faire une autre histoire, enfin une histoire décentrée, l'histoire d'un autre.
Oui, ça rentre tout à fait dedans, c'est-à-dire d'essayer de faire l'histoire des animaux, non pas du point de vue des hommes, mais du point de vue des animaux. Et qu'est-ce que ça entraîne dans la relation entre les hommes et les animaux ? On est toujours trop du côté humain et on ne regarde pas les deux côtés de la barrière, si on peut dire, et on ne regarde pas l'interaction d'une manière riche. Or, se mettre du côté de l'animal, ça permet d'enrichir tout ça.
J'ai parlé à dessein des Indiens d'Amazonie. Il faut quand même qu'on fasse une place, au moins une fois, dans cette série à Philippe Descola. Ses études sur les Indiens d'Amazonie, il dit donc qu'ils font partie, ces humains d'Amazonie, de collectifs. Les esprits sont là, les animaux sont là, les plantes sont là. Les points de contact entre les animaux et les Indiens se font au moment de la chasse où il arrive que l'animal s'offre à l'humain, par pitié, peut-être parce qu'il a faim.
Le cas de la chasse est l'exemple le plus emblématique de cette vision des animaux. Effectivement, les Indiens pensent que le monde animal est gouverné par les esprits, comme le monde humain d'ailleurs, et que pour pouvoir chasser les animaux, il faut obtenir l'autorisation des esprits. Donc il faut les prier, et puis il faut aussi se montrer respectueux des animaux. Les esprits n'offrent pas leurs animaux si les hommes se mettent à les massacrer ou à ne pas les respecter.
Ils peuvent se venger alors en mangeant les hommes ?
Les esprits peuvent se venger en envoyant des maladies, en envoyant des animaux mangeurs d'hommes. Il y a effectivement toute une réciprocité qu'il faut respecter.
Alors je vous propose qu'on commence par une scène de chasse. Le premier animal sauvage, je mets sauvage entre guillemets, que nous allons examiner avec vous, Éric Baratet, c'est le loup. Nous sommes ici en 1899, en France, à un moment de bascule. Le loup va disparaître pour presque un siècle, exterminé par la République, qui distribue des primes avec ses préfets et ses sous-préfets, qui sont très efficaces pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et on va entendre peut-être aussi un châtelain qui gérait à l'ancienne le loup en évitant son extermination.
Arrivez ! Il y a des traces !
Il y a quelque chose, monsieur le maire ?
Allez, regardez.
Un jeune, pas plus de 2 ans. Il file droit dans les taillis.
Ben vous élevez donc des loups dans le parc de votre château pour deviner tout ça ?
Non, je vais régulièrement à la chasse en Allemagne, c'est tout.
Par ici, monsieur Duroux !
Regardez !
Ça, c'est un grand vieux loup. Regardez-moi ses pattes. Et le jeune a retrouvé sa piste. Il n'a pas aimé ça, il a pissé dessus pour masquer l'odeur.
Oui, bon, comme ça.
Oh, à mon avis, derrière une louve, c'est le début des chaleurs. Elle appelle le mâle. On va trouver sa voie. Paix, les chiens. Tenez, la voilà, notre coureuse. Lâchez les chiens, Célestin.
Le film des Griffes au loup de Philippe Meunier. Bah, une fois exterminé ou quasi exterminé, le loup ne va plus menacer l'homme, ne va plus être anthropophage. Alors, c'est ce qui fait dire aux éthologues, voyez, le loup ne s'attaque évidemment pas aux petits-enfants. Mais les historiens produisent des archives et disent, mais si, il s'est attaqué aux petits-enfants.
Alors, il s'est attaqué aux petits-enfants à une période très particulière, entre, en gros, 15e et 18e siècle, où on a beaucoup de traces dans les archives parlant de dévoration par les loups, alors que les loups actuels en Sibérie, au Canada, n'attaquent jamais les hommes, sont même très peureux. Et là, il y a eu une incompréhension entre les éthologues et des historiens qui ont travaillé sur les loups, les uns disant « mais mes témoignages historiques sont vrais, les loups ont attaqué », les autres disant « non, nous on voit les loups actuels, ils n'attaquent jamais ». Et en fait, la réalité, elle est entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut penser au changement de comportement des loups. Les loups s'adaptent, on le voit très bien à ce moment-là, entre 15e et 18e siècle, ils s'adaptent à un changement d'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une forte pression humaine sur l'environnement, notamment au niveau de la déforestation, d'une raréfaction du gibier, et donc une partie des loups est obligée d'aller chercher leur pitance, notamment parce qu'ils sont trop nombreux encore à l'époque. Donc ils vont chercher leur pitance du côté des animaux domestiques, et certains prennent l'habitude d'attaquer des bergers. Alors ce sont de jeunes enfants, des bergers, des bergères, évidemment, qui sont beaucoup plus faciles à attraper que des adultes.
Donc, il faut dépasser, dites-vous, une certaine fixité que les éthologues imaginent. Il faut dépasser aussi les jugements de valeur moraux. Mais je vais quand même en émettre un. En parlant de la deuxième espèce que j'aimerais que vous considériez avec nous, Éric Baratet, c'est l'éléphant. Bah, l'éléphant, lui, il est culturellement sympathique.
Oui, ça dépend de quel éléphant. Vous pouvez avoir un éléphant d'Afrique qui vous charge et qui n'est pas forcément très sympathique.
Robert Delors, qui a été un pionnier de l'histoire des animaux, consacre un chapitre à l'éléphant et il parle de l'ami des dieux. Bah oui, c'est l'époque où il est tracteur, où il est autobus et où il est char d'assaut.
Alors, c'est vrai en Asie, l'ami des dieux. C'est vrai pour l'éléphant d'Asie, qui est un éléphant sauvage, mais qui était en partie domestiqué, à qui l'on demande des travaux très variés. Par contre, en Afrique, les relations ont été longtemps plus conflictuelles, notamment dans les forêts. Pas l'éléphant de savane, qui était souvent laissé de côté, les populations ne s'en occupaient pas, mais dans les forêts, l'éléphant pouvait être un gibier. Donc là, il y a une pratique plus difficile. Et en fait, ce sont les Européens qui, au 19e siècle, vont beaucoup développer la chasse aux éléphants avant de changer de regard sur eux au XXe siècle.
Et de les extraire du magma de la nature, un peu comme les ethnologues l'ont fait pour les bancs sauvages et les Indiens, objet de leur connaissance. Tenez, Babar, cette saison, Babar, il a vu sa maman disparaître, mais heureusement, il était adopté par la vieille dame.
Quels sont tes projets, Babar ? Est-ce que tu envisages de retourner dans la forêt ?
Oui, j'espérais en apprendre davantage sur les gens qui habitent dans les villes. Encore un peu de chocolat ?
Mais c'est tout à fait remarquable, Baba. Si je vous juge par ta façon de servir, je dirais que tu apprends très rapidement. Je serais absolument ravie de te montrer certains de nos petits secrets.
Vous voulez bien ? Vous serez mon professeur ?
Seulement si toi tu le veux, Baba.
Oh, super ! Oups. Leçon numéro 1. Ne jamais sauter dans une maison.
Et c'est ainsi que commença ma scolarité dans la ville. Avec l'aide de la vieille dame et un peu d'ingéniosité, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Ma première action a été d'acheter ce que la vieille dame appelait des vêtements décents. Je ne savais pas s'il me plairait, mais j'ai fini par choisir un costume vert et un chapeau d'une grande élégance. J'avais l'air civilisé.
Adapté de Brunov, Babar arrive à la ville. Mais Babar, il a déjà, en tant qu'éléphant, une forte affectivité avant d'être habillé de pied en cap, d'un chapeau et d'un nœud papillon. Il paraît qu'on a vu des éléphants tenté de sauver des bébés rhinocéros enlisés dans la boue en glissant des défenses sous eux.
Oui, il y a effectivement ce genre d'amitié interspécifique et on retrouve la même chose aussi entre des éléphants et des hommes. C'est tout à fait courant. Et l'affectivité des éléphants, on la connaît déjà au 19e siècle. Elle est tout à fait importante. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a l'idée de tout un programme d'acclimatation des éléphants en Europe et puis aussi de mise au service des hommes. Et ça rentre dans cette idée de domestication de la faune sauvage qui est très forte au 19e siècle. C'est très étonnant maintenant pour nous. Il y a un mot d'ordre très répandu jusque dans les rangs de la SPA. Un animal sauvage, soit il accepte d'être domestiqué, soit il est exterminé. Mais il ne peut pas y avoir l'entre-deux, c'est-à-dire le respecter dans sa nature sauvage. Et les éléphants apparaissent comme ceux qui ont envie d'être domestiqués et de se civiliser, comme ça a été dit dans l'extrait de Babar, s'occidentaliser en réalité. Et ça, c'est un discours qu'on voit souvent dans les zoos à l'époque. L'éléphant, c'est l'animal qui vient volontiers vers les hommes, qui demande une interaction et qui est donc volontaire pour collaborer, pour travailler.
Mais souvent, les soins que donnent les éléphants aux blessés, et pas seulement aux enfants de rhinocéros, les veillées qu'ils organisent autour des agonisants, leur visite du cimetière des éléphants, ça ressemble étrangement à nos rites, c'est ça aussi qui doit interroger les hommes du 19e siècle.
Alors à l'époque, on ne les connaît pas encore, ces aspects-là. Ce qu'on connaît bien des éléphants, ce sont les émotions. Hein, par exemple, lors de la commune, on tue l'éléphant du Jardin des Plantes pour pouvoir le manger, hein, lors du siège de Paris. Et Victor Hugo note que l'éléphant a pleuré. Et c'est une forme de pleurs, effectivement, hein, qu'on connaît maintenant. Et les gens de l'époque savent très bien tout ça. Alors de nos jours, on a appris que ça allait encore beaucoup plus loin, comme vous l'avez dit, avec un comportement extrêmement développé, extrêmement sociabilisé.
Au 19e siècle, on commence à parler aux animaux sauvages. Alors on peut prendre maintenant, après l'éléphant, l'exemple du singe. Alors, à partir de quand commence-t-on à vouloir lui parler?
Pas trop au 19e siècle, parce qu'il y a l'idée répandu que les animaux ne veulent pas parler aux hommes. C'est pas qu'ils ne pourraient pas, mais ils ne veulent pas pour que les hommes ne les mettent pas au travail. Et donc, les animaux sauvages, il y aurait une espèce de complot des animaux sauvages pour de toute façon ne pas répondre, même s'ils comprennent.
Objecteur de silence.
Voilà, donc on n'essaye pas trop. Et en fait, l'idée de leur apprendre à parler, on la voit apparaître dans les années 50. Il y a des gens qui se disent, on va peut-être pouvoir leur apprendre la parole humaine, le langage humain.
De quelles années 50 parlez-vous?
1950, pardon. 1950, on voit ça aux États-Unis. Et puis, évidemment, ça ne marche pas parce que les singes, et notamment les chimpanzés, n'ont pas le larynx comme nous. Et c'est après qu'on développe le langage des signes, les souris muets, dans les années 1960-70.
Ça tombe à merveille, ce que vous dites, parce que voici un extrait concernant l'apprentissage de la langue des signes. C'est un extrait de La planète des singes de Rupert Yat.
Vous lui avez appris à signer?
Juste quelques petites choses basiques.
Qu'est-ce qu'il dit?
Rien.
Je peux savoir ce qu'il raconte?
Il dit que je devrais vous inviter à dîner. Je sais. Hé, hey, César, s'il te plaît.
Content de vous revoir, Caroline. Okay.
Tu viens, César?
C'est quoi votre secret?
Oh, j'ai pas en tiré quelque gloire que ce soit, c'est dans ses gènes.
J'adore les chimpanzés, mais j'en ai aussi un peu peur. Et il vaut mieux en avoir un peu peur.
César, t'as pas de mal à y bouger. Il est bien ici.
Oui, je vois ça.
On pourrait retourner, au nom de votre autre conception de l'histoire, le tournage de Daktari. On pourrait appeler ça César.
Oui, alors c'est très intéressant ce genre de film et c'est tout à fait l'époque où on veut justement communiquer avec les animaux, aller plus loin. Et donc on leur apprend par exemple le langage des signes et on voit très bien, on a compris par exemple que certains chimpanzés, à force de s'humaniser, se considéraient comme des hommes. un chimpanzé comme Lucie, par exemple, dans les années 60-70, lorsqu'on lui montre des photos de chimpanzés, elle les traite de sales bestioles noires. Hein, elle, c'est pas du tout un chimpanzé.
On sait qu'elle les traite de sales bestioles noires parce qu'on lui a appris le langage des signes.
Elle le dit avec le langage des signes, effectivement. Et elle se considère comme un homme, enfin faisant partie de l'humanité.
Alors si vous faisiez la biographie de Lucie, imaginons, Éric Baratet, il y a quand même eu des moments difficiles dans son existence. La puberté, par exemple, l'adolescence.
Il y a eu deux grands moments difficiles. Le premier, c'est l'arrachement à la mère lorsqu'elle a été capturée. Et puis le deuxième, vous y faisiez allusion, c'est qu'au bout d'un moment, comme il est dit dans l'extrait, à la puberté, les chimpanzés deviennent trop forts, trop dangereux, on ne peut pas les garder. Et donc on est obligé soit de les envoyer en zoo, soit de les renvoyer, par exemple, comme Lucie, on a voulu la renvoyer dans une station de réintroduction en Afrique, avec d'autres chimpanzés. Mais elle s'est retrouvée totalement perturbée parce qu'elle... Elle ne faisait plus partie des chimpanzés.
Mais elle l'a dit ?
Elle l'a dit. Oui, oui, elle a beaucoup déprimé. Elle a refusé, par exemple, de s'accoupler avec des mâles. Et pour elle, ça a été un véritable supplice que de se retrouver au milieu de ces sauvages, si on peut dire.
Oui, donc c'est hautement risqué, ces expériences d'éducation. Ça me fait penser, je reviens au 19e siècle, à Bouvard et Pécuchet qui adoptent des enfants d'un forçat, Victor et Victor Hune, et puis au moment de la puberté, ça se passe très 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 mal, et ils décident de ne plus les garder.
C'est exactement ça. D'ailleurs, maintenant, on ne fait plus ce genre d'expérimentation pour des raisons éthiques. On ne place plus les chimpanzés dans des familles pour ensuite les ramener en zoo, par exemple.
Si vous faisiez des biographies de singes, vous feriez Lucie ou bien d'autres ?
Alors oui, il y en a d'autres à faire. Il y a notamment Consul à Manchester en 1890-93. Qui arrive directement d'Afrique et qui était un chimpanzé très intelligent alors qu'on veut humaniser justement. Il est habillé à l'anglaise, il mange à l'anglaise, on l'emmène au restaurant, il prend le thé, il fume la pipe, enfin la pipe c'est avec du thé, on n'ose quand même pas lui donner du tabac, on pense que c'est trop fort.
Et il lit le Times ?
Oui, mais à sa manière, c'est-à-dire qu'il regarde les photographies. Il aime beaucoup les livres pour regarder les photographies. Et d'ailleurs, lui aussi, le jour où il tombe sur un manuel de zoologie, qu'il tombe sur une photo de chimpanzé, il se met à sauter dessus. Et par contre, il aime beaucoup regarder les portraits d'hommes, et notamment les portraits de femmes. Ça, là, il y avait un portrait des Trois Grâces, et il contemplait beaucoup ça.
Mais nous aussi, nous ressemblons aux chimpanzés, parce que on a essayé de se documenter sur Consul, sur le net, et on a vu surtout des photos. Et on a donc observé les photos et sauté de joie en voyant l'intérêt qu'elles présentaient. Puisqu'on est dans le domaine des images, en voici, animées, encore plus plaisantes donc que celles que nous évoquions de Consul. On est après les années 50, je parle du 20e siècle, on est dans la deuxième moitié du 20e siècle à la télévision, avec le générique de Caméra au point. Et puis vous reconnaîtrez peut-être ensuite celui qui suit.
À toutes et à tous, bonsoir. En ces temps de mondiovision et de monde instantané, nous partons retrouver ce soir ces deux pays mythiques qui sont l'Afrique et l'Inde. Et c'est le jeu des images, dans la similitude des formes ou des mouvements, qui nous permettra de passer sans heurts d'une terre à l'autre. C'est ici l'Afrique, la vieille Afrique où des bêtes d'un autre âge contemplent tranquilles et subissent insensibles la vie qui passe. L'Afrique des mythes, avec ses grands et vieux animaux lourds. Le rhinocéros et l'hippopotame. Ils sont libres et seuls sur cette terre et dans l'eau de ces fleuves, un domaine qui est le leur et dont ils se sentent, comme les éléphants, les maîtres. Mais bientôt, attention, regardez bien ces émouvantes images. L'éléphant a mis bas et les mâles en cercle protecteur attendent qu'elle se relève et que le petit puisse la suivre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Cette semaine, une série consacrée à la vie des animaux, enfin dans l'histoire, avec Éric Baratet, mais on a entendu Joseph Pasteur faisant le commentaire de la vie des animaux, selon Frédéric Rossif, on est au milieu des années 1960. D'ailleurs, vous voyez là un moment de bascule
Éric Baratel, et c'est la fin des années 50, les années 60, dans le regard sur les animaux sauvages.
Ah oui, cette émission est tout à fait représentative de ce changement de bascule, hein, qui remonte un peu plus tôt, comme vous l'avez dit, aux années 50. Pour moi, la date symbolique, c'est 56. Le Monde du silence de Cousteau qui reçoit la Palme d'Or à Cannes. Et la même année, c'est Les Racines du ciel de Romain Gary sur la défense des éléphants.
Qu'est-ce que ça raconte, Les Racines du ciel ?
C'est un homme qui défend les éléphants contre le massacre des braconniers. Et là, on est vraiment dans un tournant. Il y a la volonté de protéger les animaux sauvages et de les respecter tels quels. Hein, ce n'est plus extermination ou domestication, c'est non, ils doivent rester tels quels dans leurs conditions originelles.
Parce que vous dites aujourd'hui, vous avez beaucoup écrit sur les éléphants, on revient aux éléphants, il y a moins de 500 000 éléphants en Afrique, 1 500 000 seulement en Asie. De quand date l'application et même la rédaction de la Convention internationale sur le commerce international des espèces de faune et de flore? C'est alors, un peu après la période qu'on dit là?
Oui, c'est les années 70-80. L'éléphant, par exemple, est classé dans les espèces à protéger en 89. Alors en fait, ça commence même fin 19e, les Anglais dans leurs colonies en Afrique inventent les premières réserves, mais là c'est pour maintenir une population bonne à chasser, c'est pas pour les laisser telles quelles. Hein. Par contre, c'est à partir des années 60-70 qu'on va inventer les réserves africaines pour qu'il n'y ait plus de chasse et pour que ces populations puissent se restaurer et retrouver une vie normale.
Puisque vous aimez bien la télévision, ou du moins une certaine télévision animalière, il y a eu beaucoup de documentaires animaliers à l'époque de votre enfance. C'est peut-être de là que vient votre vocation.
Énormément, énormément. Les années 60 ont été vraiment le sommet des émissions animalières.
Alors 66-69, Daktari, en voici un extrait. Et puis ensuite, on entendra un vétérinaire. Daktari a eu beaucoup d'influence sur les vocations de vétérinaire.
Ah, voilà de la visite. C'est notre vieil Edley.
Salut à tous, bonjour tout le monde.
Alors, mon vieux Clarence, toujours prêt et dispo?
Nous allons débarrasser cette réserve une fois pour toutes des braconniers et des voleurs.
Voilà une excellente nouvelle.
Bon, je crois qu'il est temps d'y aller. Il faut que j'aille voir si ça a stoppé la migration des hippopotames. Bonne journée.
Aujourd'hui, les vétérinaires de l'Office kényan de protection des espèces entament une opération délicate et dangereuse, la translocation. Autrement dit, la capture et le déplacement d'animaux. Une opération d'autant plus difficile qu'il s'agit de rhinocéros noir, l'un des animaux les plus sauvages et les plus puissants de la faune africaine. Parmi les vétérinaires, Zaour Kashmiri, le seul que l'on appelle ici Daktari, autrement dit, celui qui soigne en Swahili. À 55 ans, il apporte sa connaissance des interventions et les règles impératives à observer. Une demi-heure plus tard, l'animal arrête sa course folle, terrassé par l'anesthésique. L'animal est tatoué et le bout de sa corne si convoité par les braconniers pour ses supposés pouvoirs aphrodisiaques est coupé. Dernière intervention avant le réveil, le perçage et la pose d'un émetteur à l'intérieur de la corne qui permettra de le localiser.
Il vous est arrivé de faire des conférences, Éric Baratet, dans les écoles vétérinaires. Si vous aviez à y proposer un enseignement de longue durée, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Eh bien, ce serait justement, et c'est en projet, cette histoire du côté des animaux, qui n'est pas encore bien abordée dans les écoles vétérinaires, où on fait plutôt une histoire de l'intervention humaine sur les animaux, et notamment l'intervention vétérinaire et tout ce que ça a pu apporter.
Mais on en est encore chez certains vieux vétérinaires, des vétérans à la zoologie, c'est-à-dire à la classification en comportement étanche.
C'est vrai que les vétérinaires ne se caractérisent pas toujours par des idées très très en pointe, parce qu'ils ont été formés à une telle époque et ils restent très souvent sur les époques de leur formation.
Allez, je continue de scier la branche sur laquelle vous voulez vous poser en enseignant dans une école vétérinaire. Souvent dans les écoles vétérinaires, on dit les espèces se caractérisent selon leur relation avec l'homme. Donc il y a les espèces domestique, il y a une relation amicale, il y a les animaux de trait, il y a une relation contractuelle, et les animaux sauvages, on ne sait qu'en faire.
Oui, parce que les vétérinaires ont eu une formation, et c'est dès le début des écoles vétérinaires, d'ailleurs au XVIIIe siècle, ont eu une formation centrée sur la production animale. Les écoles vétérinaires ont été formées pour la production de chevaux, la protection des bestiaux, pas du tout pour les animaux sauvages. Et un petit peu pour les animaux de compagnie, le chien, mais uniquement au XIXe siècle. Et ils sont encore vraiment dans cette idée d'animal de rente, hein, ou d'animal productif, ou d'animal qui est au service de l'homme. Alors ça commence à changer avec le développement, par exemple, des études de comportement pour les animaux de compagnie, avec l'ENAC aussi, tous ces animaux sauvages dits de compagnie.
Les nouveaux animaux
les
de compagnie.
Les nouveaux animaux
oui,
de compagnie.
Parce qu'on peut voir dans la salle d'attente d'un vétérinaire un boa maintenant à côté d'un chat.
Exactement, et donc il faut que les vétérinaires, évidemment, se coltinent ces animaux-là.
Bon, je pense que ce sera très intéressant, votre enseignement d'histoire dans une école vétérinaire. Je voudrais finir en vous demandant d'imaginer un enseignement du droit dans une école vétérinaire ou ailleurs. Parce qu'il y a un grand débat sur le droit des animaux. Il ne s'agit pas seulement de leur protection, il s'agit de savoir aussi qui parmi eux sont des sujets, des citoyens.
Alors l'idée de citoyen est en train d'émerger maintenant en Amérique du Nord. Il y a eu des travaux au début des années de 2010... qui propose justement cette idée de citoyenneté animale.
Alors c'est qui le citoyen animal pour les écoles multiculturalistes américaines les plus radicales ?
C'est essentiellement l'animal sauvage. Et l'idée, c'est de l'intégrer à la démocratie. De manière
comment
à ce
ça
que, de manière à ce que l'animal ait un poids de représentatif. Et comment ? Le fait que ce soit un citoyen comme d'autres, alors évidemment il ne votera pas, ça va de soi, c'est citoyen au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il participera à une communauté. Le citoyen, c'est celui qui fait partie d'une communauté et dont on ne peut pas nier les droits. L'idée, elle est là, en fait.
Oui, mais moi, je veux bien, mais on va tout de même pas donner une considération égale aux animaux sauvages et aux Indiens d'Amérique du Nord qui sont constitués en nations souveraines avec un certain nombre, comment dire, de privilèges enfin, qui leur sont reconnus, quel que soit leur nombre.
Non. Et alors, en fait, là aussi, il faut dépasser la vision, on pourrait dire, occidentale ou grecque du droit. C'est-à-dire que là, il faut aller vers des droits spécifiques. Un coyote n'est pas un Indien, ça va de soi. Un cheval n'est pas un homme. Un chien n'est pas un cheval. Et donc, il faudrait arriver à l'idée de citoyenneté spécifique ou de droits spécifiques.
Mais moi,
ce qui ne veut
bien
pas dire égaliser, pas du tout.
Moi, je veux bien respecter les droits d'une espèce, par exemple, si elle est menacée. Mais enfin, les droits de l'individu coyote.
Ah ben, l'individualité des animaux est en train d'être au centre maintenant de la science éthologique. Ce n'est plus l'espèce, la cellule de base devient l'individu parce qu'on se rend compte à quel point dans les comportements de tel ou tel animal, il y a les comportements qui sont dus à l'espèce, qui sont des comportements en partie intemporels, les comportements qui sont dus au groupe d'une époque donnée et les comportements individuels. Et l'individu devient très important, donc je pense qu'on arrivera à cela.
Vous me direz que, naguère, dans les grands conflits, on va évoquer le premier conflit mondial demain, Éric Baratet, les animaux n'étaient pas des citoyens, mais ils devenaient pour beaucoup d'entre eux des soldats. Ce sera autour de Bêtes de tranchée que nous nous entretiendrons demain, mais je recommande aujourd'hui votre livre « Le point de vue animal » aux éditions du Seuil. L'émission a été préparée par Martin Cellier avec à la réalisation Stéphane Ronxin et à la technique aujourd'hui Grégory Vallon.